Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampin. Urbanisme, architecture, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va rompre avec le rythme hebdomadaire de cette émission qui commente la plupart du temps l'actualité et pour avoir une série qui va être en 4 émissions et sur un thème historique, mais qui est évidemment relié à la thématique principale de cette émission qui est l'architecture et effectivement qui est mon domaine professionnel. Et le sujet serait donc l'architecture du XXe siècle à travers 4 architectes, on peut dire, qui sont caractéristiques du XXe siècle d'une manière chronologique. Donc il s'agit de 4 architectes, on peut dire internationaux. Le premier, c'est Mies van der Rohe, qui est un Allemand qui a fait la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis, donc qui est le premier au niveau chronologique. Le deuxième est un franco-suisse bien connu en France, qui est Le Corbusier. Le troisième est un Américain, mais immigré enfant de Lituanie, qui s'appelle Louis Kahn. Et le quatrième, alors là, plus récent, et qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Robert Venturi, et qui est relié à la ville de Toulouse, parce qu'il a réalisé un bâtiment important, qui est l'hôtel du département. Donc, la question, c'est pourquoi d'abord faire une brève histoire de l'architecture du XXe siècle à travers 4 architectes ? Bien, il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Alors, il y a une manière qui est, on peut dire, complexe et foisonnante, mais comme il s'agit d'une mission grand public, et grand public, c'est pas du tout un terme péjoratif, mais qui doit être entendu par tout le monde, sans être des spécialistes, autrement on vit toujours dans des tiroirs et dans des cloisonnements. Et là, il s'agit justement, dans ce type de propos, d'avoir une interaction, une ouverture, et qui soit compréhensible par le public le plus large possible. Donc, je vous disais, on peut le faire à travers donc les villes des architectes, et la plupart du temps, c'est fait d'une manière assez complexe et foisonnante, où on fait une histoire à travers les différents courants, les différents pays. Alors, le XXe siècle est encore bien plus compliqué que les siècles précédents, où les périodes étaient roman, gothique, renaissance, classique. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe, et vous pouvez le voir. C'est-à-dire que on n'est plus dans l'architecture du XXe siècle, dans l'unité du style classique, par exemple. Le style classique, je le rappelle, qui a commencé avec la Grèce, qui a était étendu à tout le, on peut dire, à une immense Europe et un Moyen-Orient et un morceau de l'Afrique par l'Empire romain, avec une unicité du cycle et du style, et qui a été repris aussi après le Moyen-Âge avec la Renaissance, qui est une renaissance classique, et puis par le grand âge classique, et notamment en France, le siècle de Louis XIV. Donc on a des grandes unités de style, et aujourd'hui on est dans une période beaucoup plus complexe, et on a justement un foisonnement de style. Alors c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'embrouiller avec des arbres foisonnants et des vingtaines d'architectes, comme ça se fait dans les histoires de l'architecture, on peut dire, pour étudiants en architecture. Mais je vais essayer justement de le simplifier et de l'orienter avec le rapport à la société, qui est évidemment mon sujet principal, que vous pouvez trouver à travers mes émissions. Alors, j'avais fait au cours d'une conférence à la Maison de la Philosophie, j'avais fait une conférence sur les trois erreurs de l'histoire de l'art. Les trois erreurs de l'histoire de l'art. Bon, vous pouvez penser que c'est assez prétentieux d'aborder l'histoire de l'art par la critique des autres ou des historiens de l'art, mais c'est un regard un peu distancié parce que je ne suis pas un historien de l'art, on peut dire professionnel. Et donc, ma critique, elle était à travers trois thèmes. Alors, le premier de la critique, c'était l'histoire de l'art évolutionniste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? On peut dire que la vision de l'histoire de l'art, ça serait une vision de l'histoire vue comme une évolution. On a parlé de ça avec la science qui, elle, effectivement, est cumulative et va vers un progrès. Mais l'histoire de l'art n'est pas une progression. Pourtant, on trouve cela bien souvent parce qu'on nie par exemple le style grec archaïque et puis son évolution. On a la même chose avec les peintres primitifs, par exemple, et on aurait une sorte l'âge classique, le naturalisme qui serait un épanouissement par rapport aux périodes précédentes. Donc on est là vers une évolution. Et cette évolution, également, on va la retrouver dans la préhistoire où on va avoir un récit évolutionniste qui est un peu compliqué parce que on ne sait pas très bien comment positionner les peintures rupestres, mais on a ça aussi avec l'art dit primitif, c'est-à-dire l'art des peuples qui ne sont pas occidentaux, c'est-à-dire la quasi-totalité du monde hors l'Occident, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Alors évidemment, on a l'art précolombien, on a l'art africain sous ses différentes formes et aussi l'art primitif mésopotamien et autres. Donc tout ça et je pense est une fausse approche d'essayer de trouver des continuités évolutives dans ce qui est en fait une relation aux civilisations. Donc, ma thèse principale que j'essaie d'argumenter, et c'est que les formes artistiques sont liées aux formes de société. Et on pourrait dire à l'inverse que quand on regarde une forme d'art, on a l'image, on peut trouver l'image de la société qui la conçoit et qui l'utilise. Alors, revenons à l'architecture pour le XXe siècle, c'est justement là de ce passage entre l'architecture classique et puis le mouvement que l'on appelle Art Nouveau et puis l'architecture moderne et le sujet de la série d'émissions que je vais vous faire en suivant sera effectivement sur cette période qui est l'architecture moderne. Alors, je reprends mon propos des trois erreurs de l'histoire de l'art. Donc, la deuxième erreur, ça sera, et ça, on pourrait me le reprocher, c'est de faire l'histoire de l'art à travers les artistes, à travers les grands personnages de l'histoire de l'art. Alors, ma critique, elle est de dire, Picasso arrive, et si Picasso n'était pas arrivé, il n'y aurait pas eu en grande partie l'art moderne, c'est-à-dire que le cubisme est inventé à ce moment-là et comme une invention technique. Et donc là, je m'inscris en faux parce que je pense que les grands mouvements de changement de style, ils sont des mouvements, comme je vous disais à l'instant, de société, et il ne s'agit pas de minorer le rôle des grands artistes, mais en fait, ils ne font que traduire ce que la société demande. Si je voulais résumer mon propos, si Picasso était né sous Louis XIV, eh bien, les grandes scènes de bataille de sous Louis XIV n'auraient pas été peintes dans le style de Guernica. Voilà, donc, et réciproquement. Donc, l'importance de l'artiste est réelle, mais les artistes, quelque part, ils sont interchangeables. Et s'il n'y avait pas eu Picasso en tant que personne, ben, il y en aurait eu d'autres qui auraient eu une importance, et le mouvement moderne aurait été là aussi. Donc, quand on regardait les émissions sur les artistes, on a l'impression qu'on a des inventeurs et que sans ces inventeurs, eh bien, l'histoire ne serait pas celle-là. Alors, c'est valable pour Goya, c'est valable pour Rubens, c'est valable pour Rembrandt et ou Vermeer, mais ils sont les produits de leur société et ils sont simplement des personnalités assez exceptionnelles. Et je pourrais dire aussi, et c'est valable pour les architectes que l'on verra dans les émissions qui suivront, ils ont une caractéristique étonnante que l'on ne va pas voir avec les inventions techniques, c'est que, autant en musique qu'en peinture qu'en architecture, on va avoir, ou en sculpture, on va avoir ces artistes qui vont, quelque part, tout dire d'un seul coup. C'est-à-dire qu'ils domineront non seulement leur époque, mais les époques après. C'est-à-dire que Bach est unique, et Mozart aussi, et ce n'est pas quelque chose d'inabouti qui va être amélioré. Donc, pour revenir à l'histoire de l'évolution, on n'est pas justement dans son processus d'évolution, comme on va voir par exemple l'évolution de l'automobile ou du vélo ou du smartphone. Alors ça, c'était donc la deuxième position, et je vais marquer une pause musicale et je vous parlerai de la troisième en suivant. La troisième erreur de l'histoire de l'art. Alors, je vous rappelle, la première, c'était l'évolutionnisme, de penser que l'art était en évolution. La deuxième, c'était la personnalisation excessive des artistes. Et donc, la troisième, ça va être l'interprétation des œuvres, qui est en fait, on peut dire, le cœur du métier de l'historien de l'art. Et là, il s'agit alors de faire, on peut dire, de trier ce qui est la réalité de la volonté de l'artiste, en rapport évidemment, encore une fois, avec sa société, et en même temps, de ne pas tomber dans un excès de la surinterprétation et de prêter à des artistes des intentions qu'il n'a pas eues. Alors là, évidemment, ce jeu de l'interprétation, on voit par exemple un tableau très connu qui est celui de Peter Van Eyck, le peintre hollandais Van Eyck, avec les couples Arnolfi, où on voit un homme et une femme habillés en noir devant un décor intérieur avec plein de détails. Et là, il y a eu une analyse par un psychanalyste notamment qui invente une histoire qui est assez intéressante, parce qu'il a écrit un livre là-dessus où il y aurait eu un enfant mort et la femme, en fait, elle est défunte et l'homme est veuf. Donc, il construit une histoire à partir d'éléments de détail où il trouve que les deux sandales rouges qui sont posées sont les signes de sa théorie. Alors, tout ça est intéressant et amusant, et je pense que un des rôles aussi de l'art, c'est de se prêter à des interprétations, et en plus de cela, d'être universel, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut s'y projeter dessus, à la fois de quelques pays dans lequel, ou de quelques civilisations dont on est issu, mais également dans le temps. Alors je pense que chaque époque, et on peut pas savoir à la Renaissance, ce que les gens pensaient vraiment, et la projection, évidemment, c'est une projection psychanalytique moderne, et quelque part, c'est pas une mauvaise chose que les tableaux soient des multi-interprétations. Mais je veux dire, il faut savoir raison garder et penser que l'artiste a une double exigence. La première exigence, c'est le satisfaire sa commande. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans un rapport à la commande. La commande, elle était toujours permanente. C'est-à-dire, il y avait un commanditaire qui demandait un tableau ou un groupe de personnes. Enfin, c'était l'Église, les puissants, mais aussi les grands bourgeois. Donc, on peut dire jusqu'à l'art moderne, il n'y a pas de commande. Alors l'architecture échappe à cela parce qu'il y a toujours un commanditaire, et les architectes ne font pas les bâtiments dont ils ont envie. Ils font des bâtiments pour un client parce que ça coûte cher. Mais les arts, par exemple, le cinéma, il a la sanction du public. Et les artistes sont des galeristes aussi. Si on ne trouve pas de galeriste, on a du mal à vendre ses peintures. Donc, il y a toujours une commande, il y a toujours une relation au public. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a plus cette relation. Alors, ceci fait qu'effectivement, il y a une plus grande liberté qui est donnée à ces interprétations que l'artiste ne donne pas lui-même. Et souvent, les artistes, ils vont inventer une histoire qui va plaire aux médias et aux clients potentiels, ou alors on a des gens qui vont effectivement interpréter, alors avec Soulages, la lumière, on peut faire avec le noir, des interprétations sur son enfance, etc. Bon, tout ça est quand même assez anecdotique. Alors, pour revenir à l'architecture, donc, on n'est pas autant les deux premiers erreurs peuvent se passer. Là, on peut dire la troisième, pour les raisons que je viens de donner à l'instant, sont moins présentes puisque l'architecte a toujours un client. Et on peut dire que aujourd'hui, et notamment en France avec la mode des concours, le commentaire n'est pas un commentaire extérieur, mais c'est le commentaire obligé de l'architecte. Alors, l'architecte se croit obligé de donner des interprétations à ses œuvres. Par exemple, l'architecte de la Grande Bibliothèque de Paris, qui est fait de quatre bâtiments en angle droit, posés en coin, sur un rectangle, il a parlé de livres ouverts, et on a également un grand nombre de ces, on peut dire, de ces explications par les architectes, ce que j'appellerais l'architecture parlante, qui me paraît assez une infantilisation et pas quelque chose de sérieux. Donc on n'aura pas dans les quatre exemples des architectes du XXe siècle que je prendrai cela, parce que on sera pas dans l'infantilisation et on sera dans une relation entre la période dans laquelle cet architecte s'épanouit et à la reconnaissance. Il a la reconnaissance et donc il a des projets. Et ces projets sont, on peut dire, publiés, sont connus, sont visités et copiés également. Donc il y a le rôle de l'artiste en tant qu'influenceur par rapport aux autres architectes de cette époque, ce qui a été le cas de Caravage, ce qui est le cas de Mozart, où après on a des suiveurs qui des fois il est assez difficile de distinguer les petits maîtres du grand maître. Alors, on peut pas dire forcément des copieurs, on peut dire simplement des gens qui sont inspirés, et il n'y a aucune honte à avoir un style. D'ailleurs, à ce sujet, c'est justement un des problèmes de notre époque, c'est que dans tous les arts, on peut dire moins en musique, mais la musique est un invariant social. On peut dire que la musique, on la retrouve dans toutes les époques, avait la même importance, et ce qui n'est pas le cas de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, et aussi des arts comme le théâtre, mais aujourd'hui surtout le cinéma, qui sont devenus, on peut dire, les arts les plus, en tout cas pour le cinéma, l'art le plus populaire. Donc on est dans un rôle de hiérarchie et d'importance, et on pourra aborder ça dans les émissions qui suivront, mais je vais vous faire un petit résumé de ma pensée. Ce que je pense, c'est que l'architecture dans la période, en Occident en tout cas, dans les derniers siècles, a été l'art majeur et s'est traduit par les grands monuments qui étaient les monuments à la fois de la religion et les monuments du pouvoir, les châteaux et les cathédrales, mais qui permettaient une lecture total des villes, une compréhension qui était partagée, on peut dire, par tout le monde, donc l'art qui était en symbiose totalement avec la société. Et l'architecture était dans le premier des arts. Ma thèse, c'est que à la fin du 19e siècle, l'architecture a perdu de ce rôle majeur et la ville également, c'est-à-dire que Haussmann finit le 19e siècle et que depuis, on a une autre phase dans laquelle l'architecture est passée dans son utilitarisme, c'est-à-dire que l'architecture, elle est toujours utile et fonctionnelle, elle a toujours besoin de bâtiments, que ce soit le logement ou de bâtiments publics, bon, c'est pas la peine d'insister là-dessus. Mais leur rôle signifiant de la société est infiniment moins grand. Et c'est pour cela que le nom des architectes que je vais expliquer, à part Le Corbusier, ne sont pas très connus du grand public, ce qui n'était pas le cas avant. Mais par contre, tout le monde connaîtra les acteurs de cinéma Brad Pitt, DiCaprio, De Niro et aussi les grands metteurs en scène, Bergman, dans le passé ou... Enfin, je ne veux pas faire la liste des grands cinéastes, mais on peut dire que des gens comme Spielberg, par exemple, sont connus du grand public, et ce qui n'est pas le cas de l'architecture, qui est justement un domaine aujourd'hui qui est devenu un domaine initié, mais ce n'était pas le cas avant. Alors. Pour terminer mon propos, je dirais que on est justement dans ce changement de paradigme, ce changement non seulement d'époque, mais même de civilisation. Et c'est quelque chose qui n'est pas énoncé comme je le fais d'une manière assez radicale et brutale, c'est-à-dire il y a une coupure entre le 19e et les époques précédentes et le 20e siècle. Et nous sommes aujourd'hui dans cette rupture qui se traduit par la prééminence du cinéma et du récit, et également la perte de symbolique de l'architecture, mais également, on peut dire, l'individualisation, l'autonomie de la sculpture et de la peinture, qui étaient liées à l'architecture. Les architectures, elles étaient sculptées, elles étaient décorées de fresques, et ou alors de très grands tableaux qui étaient quelque part, qui couvraient les murs. Et aujourd'hui, on a les peintures et les sculptures sont devenues des objets autonomes, mais qui ne sont reliés à aucun bâtiment. Voilà, c'est comme ça. Il ne s'agit pas de pleurer sur le passé. Le passé, nous avons la chance, justement, de pouvoir le conserver et de pouvoir l'admirer et le visiter. Donc, mon propos n'est pas un propos de nostalgie, mais simplement un constat d'un changement radical. Alors, l'émission prochaine commencera avec Miss Van der Rohe et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une série de 4 émissions qui seront intitulées Une brève histoire de l'architecture. Je vous souhaite une très bonne semaine.